Si vous me voyez tout sauter, c'est que hier j'ai beaucoup parlé. Et après ça, durant la nuit, j'ai eu quelques petites difficultés qui font que j'ai toussé pas mal par la suite. Donc c'est pour ça que la gorge est irritée un peu. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave. Donc hier, comme vous le savez, j'étais à cette conférence organisée par le département de médecine de l'université McGill. Et de concert à ce département, cette fois-ci, il y avait aussi le campus de Gatineau qui était là. Donc, McGill a aussi un campus à Gatineau avec des étudiants aussi en médecine là-bas. Donc, ils se sont joints à nous hier. La conférence avait comme objectif de parler de la foi dans la vie d'un patient. Donc, comment la foi peut influencer un patient face à son traitement ou face à son refus de traitement même, comment la foi peut avoir une incidence dans la relation entre le patient et le médecin, et comment un médecin doit en prendre compte. Donc, on m'a demandé de participer. C'était la deuxième occasion où je le faisais. L'année dernière, il n'y a pas eu l'événement à cause de la COVID. Cette fois-ci, on l'a fait. En ligne, par Zoom, on espère pouvoir refaire la chose l'année prochaine, mais dans les formules normales ou habituelles qui est en présentiel. Donc, à prime abord, j'étais pas trop conscient des résultats. Au moins dans la première conférence, j'ai eu deux fois la conférence. Donc, j'ai donné deux fois la conférence, en fait. Donc, le premier groupe, il y avait, comme c'était à distance, il n'y avait pas trop d'interaction. Et puis, dès que j'ai terminé, ben, on est passé à l'autre groupe. Donc, on n'a pas pu avoir trop d'écho. Mais le médecin qui était avec moi, qui m'avait invité à être dans son groupe pour cette deuxième occasion, était très, très satisfait du déroulement. Donc, on est passé au deuxième groupe. Et là, encore, j'ai partagé mon témoignage, j'ai présenté l'Évangile. Je leur ai dit avant que je ne vous parle de ce que la foi a fait dans ma vie par rapport à la maladie et comment elle peut avoir une incidence sur les relations patient-médecin. Je dois vous expliquer c'est quoi la foi. Alors, je leur ai dit brièvement que la foi, c'était tout d'abord une question de salut. Qu'on est tous pécheurs, qu'on a tous besoin d'un sauveur et qu'il n'y a qu'un seul sauveur qui a été donné, qui est mort et qui est ressuscité, pour quiconque le confesserait comme son Seigneur et son sauveur. Donc, c'était l'occasion de présenter l'Évangile. C'était pas un exercice que j'avais le droit nécessairement, dans le sens où c'est pas un cours de théologie, donc c'était pas un ralliement d'évangélisation. Mais quand un pasteur est invité à parler de Jésus, il ne peut pas faire autrement que de parler en même temps de la grâce du Seigneur. Donc, brièvement, je leur ai présenté ça. J'ai dit la foi en deuxième point, c'est aussi une question de conduite et de mode d'opération. Donc, tous nos faire, toutes nos actions, tout notre comportement se doit d'être dicté ou guidé par la parole de Dieu. On doit retourner à la parole de Dieu comme influence pour notre quotidien et pour les décisions qu'on a à prendre. J'ai dit en troisième point, la foi est aussi notre rempart dans les moments difficiles et c'est en raison de cette faculté que la foi a ramené la paix et le calme dans nos vies que je suis là devant vous aujourd'hui pour vous parler de mon histoire. Alors, c'est là où je rentrais donc dans l'histoire en leur expliquant de façon chronologique ce que Dieu a fait dans ma vie dans l'année 2014, 2015 et 2016 quant à la maladie, comment j'ai réagi le moment où j'ai dit à Dieu c'est correct. Alors là, c'était l'occasion de dire ben, la foi, c'est bon quand tout va bien. Mais c'est aussi notre rempart quand ça va moins bien. Et c'est sur ça qu'on se tient. J'ai dit cette prière toute simple que j'ai faite à Dieu, en acceptant, peu importe l'éventualité, que ce soit qu'il me ramène ou qu'il m'amène plutôt chez lui, dans l'au-delà, ou qu'il me garde ici-bas, que c'était correct pour moi que tout était OK, qu'il était bon et que je continuais à lui faire confiance. Donc c'était ça. Après ça, je suis allé dans une deuxième partie qui parlait un peu de comment un médecin peut prendre notre foi comme un outil dans notre traitement. Et là, j'ai parlé de mon gastro-entérologue qui, le jour où ils ont découvert la tumeur au niveau de l'œsophage, je lui ai demandé. Première question qui est venue en ma tête lorsque l'œsophage, on m'a dit que je n'étais pas supposé être capable de manger, de boire ou de respirer correctement. Alors, je lui ai dit, avec ce que vous voyez, c'est quoi les pronostics? Je pense que tout malade a un peu ce questionnement-là, à savoir combien de temps vous me donnez. Et lui m'a répondu, mais Florent, tu es un homme de Dieu et tu es un croyant. Donc, le temps n'est pas important, il n'est pas entre tes mains, il est entre les mains de Dieu. Donc, ce médecin-là prenait ma foi, ma croyance, comme un outil pour me fortifier et m'encourager, même si ce médecin n'est pas du tout chrétien de confession. Donc ça, je le représentais donc avec humilité, comme quoi par moment, c'est d'autres personnes qui ont utilisé la parole, dont un médecin, pour me fortifier et me calmer. Et puis après ça, je parlais aussi d'un médecin qui, lui, n'a pas pris en compte ma foi, qui l'a plutôt raillé un peu, qui l'a plutôt rigolé de ma foi. Ce médecin qui voulait, après 2 minutes de m'avoir rencontré, et qui voulait m'amputer la cheville alors qu'il n'y avait plus aucun signe de cancer, mais tout simplement parce que, d'après lui, 3 ou 4 ans ou 5 ans plus tard, j'allais revenir le voir parce que le cancer aurait recommencé à la cheville. Donc, je disais, ce médecin-là n'a pas pris en compte donc ma foi et je leur ai donné l'avertissement donc et l'exhortation de prendre en compte la foi de leurs patients pour donner un diagnostic et pour pouvoir comprendre aussi comment ils peuvent aider le patient à affronter la maladie et à affronter les traitements. Puis on a continué tout simplement en expliquant comment la foi est aussi venue me guider lorsque je devais prendre la décision pour l'amputation du pied et que le Seigneur s'est révélé à travers un verset. J'ai dit, regardez, vous pouvez rigoler, ça peut vous faire sourire, mais pour moi, c'était Dieu qui me parlait ce jour-là. Lorsque j'ouvre ma Bible dans un chapitre, et puis une Bible que je n'avais jamais ouverte, que j'ouvre la Bible, je tombe directement dans un verset qui dit qu'ils sont beaux les pieds au pluriel et non pas le pied au singulier. Je disais, c'est le Seigneur qui me parlait pour me dire que j'avais encore bien des montagnes à gravir. Et c'est ce que je fais donc depuis tout ce temps-là. Donc c'était l'occasion de faire ce discours-là ou cette conférence-là. Je pense que c'était très vivant, vous me connaissez. Quand je parle, j'essaie que les choses soient simples et en même temps qu'elles soient un peu dynamiques. Donc je pense que d'avoir un patient qui pouvait parler de tout ça était une bonne chose. Donc, dans ce deuxième groupe, on a eu le temps, on a mieux scindé les choses, on a eu le temps d'arriver à une période de questions. Et en fait, il y a eu une seule question. Et c'était une jeune fille, probablement d'origine arabe, d'après le nom et la physionomie. Et puis, quand elle a commencé, elle m'a fait peur un peu. Je me suis dit, OK, là, Florent, tu te fais ramasser. Tu vas en prendre plein la tête. La jeune fille avec un air très sérieux, avec un discours posé et lent, elle dit, regardez, des cas de pathologie comme la vôtre, on va en rencontrer à tous les jours. C'est pas nouveau d'avoir un cas médical comme le vôtre. Et là, je me suis dit, OK, on va dire que mon histoire n'est pas pertinente et tout ça, et que j'ai exagéré les choses. Et elle continue la prochaine phrase et elle dit, mais votre réaction à la maladie et comment vous êtes resté calme et paisible et comment vous avez affronté la maladie, on ne l'a jamais vu. Et ça m'a ramené à une compréhension que j'avais eue il y a déjà quelques années lorsque je pensais à mes différents médecins, à part celui qui est chrétien et qui m'avait invité hier, mais les autres, je me suis dit, un miracle n'est pas quelque chose qui étonne les scientifiques et les médecins, parce qu'ils ont comme préenregistré en eux, préconditionné en eux le fait que aujourd'hui nous ne comprenons pas ce qui se passe, mais dans 25 ans probablement on sera en mesure de t'expliquer ce qui s'est passé. Et pour un médecin, je disais, notamment pour mon chirurgien, la chose que eux ne comprennent pas, c'est comment Florent peut être calme alors qu'il est en stade 4, comment il peut être calme alors que la chimio qu'on lui donne est la plus forte qui existe, comment il peut continuer à sourire, comment il peut continuer à encourager les autres. Et la jeune fille disait que ça, c'était particulièrement étonnant. Donc je me suis dit, bon, ben alors ça les a touchés, et puis je voyais les gens qui hochaient la tête, qui esquivaient effectivement des sourires à ce moment-là. Donc je me suis dit, ok, le message est passé, ils ont compris que la foi, effectivement, et Dieu dans ma vie m'a permis de passer à travers tous ces moments difficiles. Mais contrairement à l'édition d'il y a 2 ans, par la suite, j'ai... juste un instant, il y avait un petit problème. Voilà, je pense que ça va reprendre. J'espère. Voilà. Désolé pour la courte interruption, je crois. Bon, par la suite, donc, il y a eu un debriefing, donc, après... la rencontre, la dernière fois, j'étais resté, Daphné était avec moi, donc on était resté avec son médecin, le docteur Wing, qui nous avait invités. Et là, on a pris quelques minutes pour discuter, voir comment ça avait été. Et on avait pris quelques minutes pour prier. Donc, je pensais que c'était un peu ça qui allait se passer, juste moi et celui qui était attitré avec moi. Et non, là, c'était un debriefing avec l'ensemble du corps professoral, et l'ensemble des membres du clergé qui étaient là. Donc, il y avait des représentants des grandes foies bouddhistes, hindouistes, judaïques, catholiques, une église protestante très classique. Et puis, il y avait moi. Et puis, les gens disaient, par Zoom, il semble qu'on n'a pas beaucoup d'interactions, puis on est obligé de poser des questions aux étudiants parce que quand on a fini notre truc, on ne sait plus quoi faire. Et mon médecin prend, celui qui était avec moi plutôt, demande la parole et il dit, ben moi j'aimerais vraiment qu'on nous donne, au lieu de 50 minutes, qu'on nous donne une heure complète parce qu'on n'arrive pas à faire tout ce qu'on voudrait faire. Et il y avait d'autres personnes, et là il explique que lui, il avait non seulement un membre du clergé, mais de surcroît aux membres du clergé, cette même personne était aussi un patient qui pouvait expliquer non seulement la foi dans des termes théologiques, mais expliquer aussi la foi dans le pratico-pratique de la vie d'un patient. Et que donc nous, on avait eu vraiment du bon temps et qu'on aurait été capable de durer encore plus longtemps. Et puis, on aimerait avoir un peu plus de temps. Et il y a d'autres professeurs qui se sont mis à dire, bon, mais moi, la prochaine fois, j'envoie tous mes étudiants directement chez le Dr. Wing, puis chez le pasteur Giacomin. Comme ça, tout le monde pourra profiter de l'expérience. Donc, ça a été un peu ça, la conclusion. Il semble que mon témoignage ait été apprécié aussi par le corps professoral. Donc, le plus marrant dedans, c'est qu'un des animateurs, un docteur d'origine italienne qui était, lui, l'animateur pour le groupe catholique, est un des médecins que j'ai eu à un moment donné lorsque, après la chimiothérapie, j'ai dû faire de la réadaptation. Donc, on m'a envoyé dans une clinique de douleur et de réadaptation post-cancer. Et ce médecin-là était donc là hier. Et ce médecin-là, en fait, je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Il a été non seulement mon médecin, mais ça a été aussi le médecin en soins palliatifs pour mon beau-père. Alors, c'était l'occasion pour lui de voir pour une troisième fois mon témoignage, mon histoire. Il m'a connu à l'époque où j'étais juste avec mon beau-père, comme un jeune pasteur qui accompagne son beau-père. Puis, par la suite, il m'a vu, moi, comme patient en chimiothérapie et il me voit donc quelques années plus tard comme conférencier et quelqu'un qui est passé à côté de la mort par tout simplement par la grâce de Dieu. Donc c'est ça que c'était ça qui s'est passé hier. Ça a été donc un temps merveilleux, un temps béni. On pense reprendre la chose l'année prochaine et puis on vous tiendra au courant pour la prière. Certains me demandaient, est-ce que ça peut être enregistré? Ça a été enregistré, mais pas par moi, bien entendu. Ça a été enregistré par l'Université McGill. Ça fait partie d'un cours officiel. Donc, ce n'est pas une conférence aléatoire où les gens peuvent se présenter ou non. Si les étudiants ne se présentent pas, ils ont donc un échec à ce cours. C'est un cours d'une seule journée, mais il compte quand même pour leur formation globale au niveau universitaire. Il y a deux ans plutôt, c'était le groupe de troisième année qu'on avait rencontré. Donc, c'était le groupe qui commençait à travailler sur le terrain, qui commençait à rencontrer des patients. Là, ils ont préféré rabattre ça cette année aux deuxième année. Donc, c'était l'ensemble du campus en deuxième année qui n'est pas encore admissible à aller faire du pratico-pratique auprès de certains patients. Donc, ils sont encore dans la formation théorique et ils se sont dit juste avant qu'ils ne rentrent l'année prochaine dans une pratique plus palpable et tangible de la médecine, on veut qu'ils aient cette rencontre-là. Par contre, les étudiants qu'on a eus il y a deux ans, qui sont maintenant en quatrième ou en cinquième année, ont demandé à l'organisateur, nous, on aimerait bien revoir encore cette formation-là, parce que maintenant qu'on est confronté au public, on se rend compte que la foi, effectivement, a un impact. Et le directeur de l'événement, le docteur Gauche, d'un centre palliatif assez reconnu à Côte-Saint-Luc, ici à Montréal, a dit, on est en train de considérer le fait que les étudiants se rappellent beaucoup plus de toute manière les cas pratiques de cette journée et les témoignages pratiques, et c'est de ça qu'ils vont aller chercher davantage d'outils que de la formation théorique qui la précède. Donc, ils sont en train de considérer faire l'événement deux fois par année, non seulement pour ceux qui débutent le cursus médical à l'université, mais de surcroît ça, de reprendre un peu cette notion-là lorsqu'ils arrivent vers la fin de leur parcours, simplement pour les équiper un peu mieux face à leurs patients et face aux défis qu'ils vont rencontrer. Donc, c'est un peu ça qui s'est passé hier. J'en suis sorti épuisé, c'était en anglais, donc je parle anglais assez pour soutenir une conversation, mais faire une conférence, d'autant plus une conférence avec des termes médicaux, ça peut être un peu complexe, mais la grâce de Dieu a été bonne, et je pense aussi que le fait que je parle pas parfaitement anglais, ça fait aussi en sorte que j'avais une approche, en tout cas pour moi, ça m'a gardé peut-être plus humble, plus doux dans mon approche que si j'avais été en français et j'avais eu plus d'aisance. Parfois, l'aisance peut être mal perçue. Donc là, ils savaient au départ que j'étais pas très à l'aise. Alors, ils avaient peut-être encore un peu plus de compassion pour moi. Puis, ils étaient peut-être un peu plus réceptibles. Je dis ça parce que je me rappelle une fois où je prêchais dans une église et j'étais très timide, très gêné, je tremblais. Et les gens ont remarqué ce malaise, mais ils l'ont pris comme étant de l'humilité et de la simplicité. Et ça leur a permis à eux d'ouvrir leur cœur et de recevoir la parole. Alors, je sais que parfois, on veut décrier le fait que quelqu'un soit plus timide, donc moins utile. Mais à l'occasion, le Seigneur utilise aussi la timidité comme un instrument pour faire passer de façon plus douce, plus simple, moins fracassante le message qu'il a passé. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé hier. Donc je suis rentré à la maison très 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 fatigué et puis la nuit par la suite, quand la journée a été dure, la nuit par la suite en général, ça s'en ressent. Donc c'est un peu le cas. Voilà pourquoi j'ai la gorge un peu enrouée ce matin. Donc voilà, il est un peu tard maintenant pour commencer le verset d'aujourd'hui. On va le reprendre demain. De toute manière, on a jusqu'à vendredi. Puis c'est trois versets qu'on veut étudier. J'ai pris le temps tôt ce matin avant de partir amener Daphné, puis en rentrant pour bien étayer les choses. C'est là devant moi, c'est beau, c'est bien noté, mais je pense que 10 minutes, c'est trop peu pour qu'on puisse étudier ce passage. Alors, si vous voulez, on va plutôt prier. On va prier pour ces jeunes hommes, ces jeunes femmes qui ont entendu la parole de Dieu hier, et prier que Dieu intervienne dans leur vie. C'est des gens qui vont servir le grand public. Dans quelques années, c'est peut-être des gens qui vont vous soigner, qui vont soigner un proche, et qui se rappelleront qu'ils ont déjà rencontré un patient qui était bien malade et qui avait la foi, et que les leçons qu'ils avaient tirées de lui avaient modifié leur pratique. Alors, on va prier qu'effectivement ça soit profitable, mais de surcroît à ça, on va prier aussi que le message de l'Évangile soit arrosé par le Seigneur et qu'il puisse toucher ses cœurs. Je vous rappelle, ou je vous ramène, il y a 2 ans, lorsqu'on a fait la première édition, ou lorsque j'ai fait ma première édition là-bas, dans les 2 groupes qu'on a eus, les gens pleuraient. C'est sûr qu'en présentiel, c'est probablement plus touchant. J'avais Daphné à mes côtés, et lorsqu'on arrive à la partie de l'histoire où on dit, où je fais la prière en disant « Seigneur, c'est correct, tu peux me garder ici ou tu peux m'amener », ça vient toujours toucher Daphné, mais je me rends compte en même temps que c'est la partie clé de mon histoire, cette prière toute simple que j'ai fait le matin suivant mon diagnostic. C'est cette prière qui est le point fort de mon témoignage, parce que tout découle de là après. Toute mon attitude, toute ma foi, toute ma dépendance envers Dieu, toute mon acceptation de la situation et toute ma confiance en Dieu dépend de ces quelques mots que je dis ce matin-là en disant « Seigneur, c'est correct. Tout ce que tu fais est correct. Que tu me gardes, que tu m'amènes, c'est correct. Prends juste soin de la famille, prends soin de l'Église. Mais je te dis, Seigneur, je veux que ce soit clair, c'est correct. » Donc, quand on arrive à ce moment-là, Daphné est toujours émotive. Puis, les gens, quand on est arrivé à ce moment-là, il y a 2 ans, avaient aussi vu, ou étaient eux aussi émotifs. Et tant les garçons que les filles. Il y avait des garçons qui pleuraient, il y avait des filles qui pleuraient. Et je suis convaincu que parmi eux, il y avait assurément des chrétiens. Au niveau des statistiques qu'ils font de l'événement, ils calculent que dans l'ensemble du campus, à chaque fois qu'ils font cette conférence, il y a environ 60% des étudiants qui se déclarent de confession chrétienne. Il y a une 30% environ qui sont athées, 60% qui sont chrétiens, et après ça, c'est 9% musulmans et 1% qui va être départagé entre différentes fois, bouddhisme, hindouisme ou autre. Donc, il y a quand même 60% des gens qui connaissent quelque chose de Jésus. Certains d'entre eux, je suis convaincu, ont aussi grandi à l'Église, s'en sont peut-être éloignés avec le temps, n'ont peut-être pas pris la décision qui était importante à ce moment-là. Et puis, quand ils ont entendu ce message, mais ça leur a peut-être rappelé des choses qu'ils ont entendues à l'Église dans leur jeunesse. Donc, je pouvais pas voir pleinement ceux qui étaient là en Zoom parce que c'était à travers l'écran, mais je suppose qu'il y avait aussi certaines personnes qui étaient dans ce même cas. Donc, on va prier pour eux. Je vous encourage avec moi à prier pour eux. Et encore une fois, je veux vraiment, vraiment, vraiment vous remercier pour vos prières. Comme je l'écrivais hier, vos prières me permettent de faire ce que j'ai à faire et vos prières m'encouragent à faire ce que j'ai à faire. J'en suis ému de loin les yeux derrière mes lunettes. Tout d'un coup, mes yeux sont comme bien brillants, là. Je suis très conscient que je suis redevable, oui, à la grâce de Dieu, mais redevable aussi à l'appui, au soutien de l'ensemble du peuple de Dieu qui prie pour moi et qui me garde et qui intercède pour que je fasse effectivement ce que Dieu veut que je fasse à travers cette histoire de cancer et à travers ce témoignage qu'il m'a donné. Alors, je merci beaucoup d'avoir prié pour moi. Je vous tiendrai au courant s'il y a d'autres événements comme ça. De toute manière, j'aime bien impliquer toute l'Église parce que je dépends de Dieu et de vous. Je dépends de vos prières. Vos prières me sont importantes. Alors, encore une fois, merci. Sur ce, prions donc maintenant pour ces étudiants et puis je vais prier aussi pour vous en fin de prière, juste pour vous bénir quant à cette journée. Alors, merci Seigneur pour cette occasion que tu nous as donnée hier de rencontrer ces étudiants de médecine à l'Université McGill. Tu sais les paroles qui ont été apportées, tant les paroles que les membres du corps professoral, les autres membres du clergé ont pu entendre que les paroles que les étudiants eux-mêmes ont eu à recevoir. Je prie, Seigneur, que ces paroles ne restent pas dans le vide, que ces paroles soient ramenées au moment opportun dans les pensées, dans le cœur de chacune de ces personnes, que de façon concrète, à un moment donné où toi tu le juges adéquat, que tu ramènes, Seigneur, à leurs pensées chacune des paroles qui ont été prononcées, des paroles qui ont été claires quant à l'annonce de Christ comme sauveur de l'humanité, comme Christ comme sauveur du pécheur qui se repent et qui confesse Jésus comme seul et unique Seigneur et sauveur. Je prie, oui, Seigneur, que tu leur accordes d'entendre dans leur pensée, de ramener, Seigneur, ces paroles dans leur pensée pour qu'ils soient eux-mêmes amenés à prendre une décision à ton égard. Je prie aussi, Seigneur, que dans la pratique de leur profession, de leur vocation de futurs médecins, que tu puisses aussi, Seigneur, utiliser les propos qui ont été mentionnés hier pour faire d'eux de meilleurs docteurs, de meilleures doctoresses, de meilleurs médecins, de meilleurs serviteurs de leur prochain. Qu'ils puissent, oui, avoir à cœur de s'allier à leurs patients, d'avoir à cœur de compatir avec plus de cœur, plus d'émotion, plus de sensibilité avec leurs patients. Mais je prie, Seigneur, qu'il y ait d'autres Florence sur leur route. Seigneur, j'ai été sur la route de ces différents médecins. J'ai été sur la route de ces différentes infirmières. Certaines d'entre elles avec qui j'ai pu, ou certains d'entre eux avec qui j'ai pu prier ouvertement, délibérément et en toute simplicité dans l'intimité d'un bureau. Seigneur, je prie que tu mettes d'autres Florence sur la route de ces futurs médecins. De même, Seigneur, que sur la route du corps professoral, qui sont eux aussi, Seigneur, tous des médecins, mais qui enseignent à l'université, qu'ils soient amenés à être troublés par la paix que tu sais accorder à un de tes enfants, Seigneur, qui passe par la maladie. Qu'ils soient confondus dans leur réflexion, dans leur raisonnement très cartésien, très scientifique, confronté, Seigneur, à la paix, au calme et à cette paix qui dépasse l'entendement. C'est ce que cette jeune fille confessait hier, c'est ce que le Dr. Ferry confesse aussi à l'occasion, c'est ce que le Dr. Laria confessait, c'était ce que les infirmières en chimiothérapie ont confessé en disant « on ne comprend pas ». Monsieur Giacomin, on ne vous comprend pas, on vous comprend pas, pasteur. Ceux qui disaient à Daphné, on ne comprend pas votre époux. Seigneur, qu'ils aient des Florent aussi, qu'ils aient des Daphné aussi. Qu'ils aient, Seigneur, des patients et des familles qui les rencontrent avec la grâce, la paix et l'assurance qui ne peut venir que de toi. Seigneur, ce que je suis aujourd'hui, c'est à cause de toi. C'est à cause de ta grâce, à cause de ta bonté, et je ne veux pas l'oublier. Et même lorsqu'on passe des nuits difficiles par la suite, lorsqu'après un repas, on est malade, Seigneur, on s'est déjà dit, toi et moi, Seigneur, que c'était l'occasion pour moi. Un peu comme Jacob qui a boité tout au long du restant de sa vie après t'avoir rencontré, après s'être battu avec toi et avoir reçu sa bénédiction. Il a boité pour le restant de sa vie, mais c'était l'occasion de se rappeler qu'il avait eu un face-à-face, une rencontre intime avec toi. Seigneur, les nuits difficiles comme hier, les journées un peu plus complexes comme aujourd'hui, c'est l'occasion, Seigneur, de me rappeler à moi aussi que tout ce que je suis, je te le dois. Que tout ce que j'ai, je te le dois. Que la vie, Seigneur, de laquelle je profite encore aujourd'hui, je te la dois. Seigneur, je la dois à ta grâce, à ta volonté et à ta miséricorde envers moi. Mais je la dois aussi, Seigneur, à la prière et à l'intercession de tous mes bien-aimés qui, depuis si longtemps, Seigneur, m'entourent, me soutiennent, me protègent avec leurs prières. Alors, Seigneur, ce matin, je prie pour eux aussi. Et je veux, Seigneur, que tu étendes ta main et que tu répandes ta grâce sur leur vie. Certains d'entre eux passent eux-mêmes par des maladies aujourd'hui. Que les faibles mots qu'on a prononcés ce matin soient un encouragement pour eux. Seigneur, que la paix revienne dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit. Certains d'autres, Seigneur, prennent du temps à part qu'ils pourraient utiliser pour leur loisir, pour leur bien-être personnel, pour des activités autres, et ils prennent un temps spécifique pour prier pour moi, pour me soutenir et pour me garder. Seigneur, bénis-les, fortifie-les. Utilise-les aussi, Seigneur, pour être des porte-voix. Peut-être pas dans un milieu de santé, peut-être pas dans un milieu universitaire, peut-être pas, Seigneur, dans les endroits où toi, tu me mènes à travers cette histoire, mais là où toi, tu les amènes. Qu'ils aient aussi l'hardiesse, le courage, l'assurance et le désir de parler de toi et de proclamer Christ. Christ mort crucifié, mais Christ ressuscité pour le salut du pécheur repentant. Alors merci Seigneur de bénir mes frères, mes sœurs. Je te confie leur journée. J'appelle ta grâce sur eux aujourd'hui et visite-les. Parle-leur, entoure-les, Seigneur, de ta présence et en toute chose, que toute la gloire, tout l'honneur te revienne à toi et strictement qu'à toi. Non pas à nous la gloire, Seigneur, non pas à moi la gloire, Seigneur, mais à toi au siècle des siècles. Amen. Alors voilà, on a pris une autre tangente ce matin, mais j'étais content de partager avec vous ce qui s'était passé hier. Donc, que Dieu vous bénisse, passez une bonne journée et on se revoit donc demain matin. Ouvrez vos Bibles dans 2 Corinthiens 5, du verset 9 à 11. C'est ce qu'on va étudier à travers les prochaines journées. Alors, que Dieu vous bénisse. Au revoir tout le monde.